Chers membres de l'association franco-écossaise, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour une conférence sur les frères Inès et la cour jacobite à Rome, assurée par ma collègue Clotilde Prunier de l'Université Paris-Nanterre, et je la remercie. Et je vais vous donner quelques informations tout à fait récentes sur les activités de l'association pour commencer. Donc, depuis notre dernière rencontre du 3 octobre dernier, à l'occasion de laquelle nous avons pu voir un film de Laurent Sorcel sur les Écossais en terre de Berry, l'association a pu briller à différentes, lors de différents événements. Alors, très récemment, l'association a participé activement aux activités qui ont eu lieu au consulat de France à Édimbourg, organisée par le consul de France Stéphane Payet les 22, 23, 24 et 25 octobre dernier. Alors, je vais vous donner quelques informations là-dessus. Le mercredi 22 octobre, il y avait deux tables rondes sur les relations franco-écossaises dans le commerce, les affaires et le monde du travail. Et avec mon homologue Lorna Milne, qui est la présidente de la Franco-Scottish Society, on a introduit deux tables rondes qui regroupaient des spécialistes des échanges commerciaux, un spécialiste sur le commerce du saumon, par exemple, l'énergie éolienne, et plusieurs universitaires qui ont fait des points sur l'actualité des relations franco-écossaises post-Brexit. Alors, le soir, nous avons ouvert ensuite une réception à la National Library of Scotland, la Bibliothèque nationale d'Écosse, où il y avait une petite exposition présentant quelques artefacts liés aux échanges franco-écossais, quelques lettres notamment, et aussi des informations sur nos deux associations lorsqu'elles ont été fondées il y a exactement 130 ans à Édimbourg et à la Sorbonne. Donc c'était l'occasion aussi de fêter l'anniversaire de nos deux associations. Ensuite, le lendemain, le jeudi 23 octobre, j'ai assuré la conférence sur les conséquences de la vieille alliance dans la grande salle du consulat, et il y avait 70 participants. Voilà, donc c'était une belle réussite. Ensuite, on s'est dirigé à la cathédrale Saint-Gilles, où avait lieu un superbe concert de musique à la fois française et écossaise. Ont été joués notamment le Requiem de Fauré, et plusieurs œuvres du compositeur contemporain John Macmillan. Alors, le consul a ensuite hébergé une superbe réception en présence de Hélène Duchesne, l'ambassadrice à Londres, des députés et sénateurs des Français de l'étranger, des représentants consulaires en Écosse, du maire d'Édimbourg et de la secrétaire d'État à la culture du gouvernement écossais. À cette occasion, j'ai pu présenter l'association, demander aux acteurs de bien vouloir diffuser notre riche programme d'activités et de conférences. Et j'aurai l'occasion d'en reparler à l'occasion de la Saint-André qui aura lieu très prochainement au consulat, à l'ambassade à Paris. Alors, suite à l'accueil très chaleureux que nous avons réservé à l'épiscopat écossais à l'occasion des célébrations liées à l'achat de la ferme de Grisy au Moyen-Âge, en retour, le maire d'Aberdeen et l'évêque d'Aberdeen m'ont invité à faire une conférence le 29 mai 2026. Donc voilà, je suis très heureuse de vous présenter un bilan dynamique et j'espère que les prochains mois seront suivis de davantage de membres, enfin d'une venue de nouveaux membres. Et juste pour relayer, notre programme a été largement diffusé de conférences en 2025-2026, notamment auprès du bureau écossais à Paris. Et les collègues et les administratifs sont très admiratifs des conférences que nous pouvons accueillir ici en ces lieux. Alors, me reste le soin de présenter Clotilde de Prunier, qui a la mobilité de venir ce soir dans un agenda universitaire toujours très chargé. Alors, Clotilde est professeure à l'Université Paris-Ouest de Nanterre, spécialiste des 17e et 18e siècles écossais, notamment des questions religieuses et notamment sur la place des catholiques en Écosse, notamment au 17e et au 18e siècle. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles, notamment dans la NS Review, qui est la revue universitaire qui porte sur l'histoire du catholicisme en Écosse. Et récemment, elle a publié dans un ouvrage sur Colbert of Castle Hill, l'évêque de Rodez et, mission et chef de la mission écossaise, un article, un chapitre dans l'ouvrage. Alors ce soir, Clotilde va nous parler des deux frères Innes, Lewis Innes, qui était notamment donc, chef des archives ici au Collège des Écossais, et qui était aussi le chaplain, l'aumônier de Jacques II. Voilà, donc je laisse le soin à Clotilde de nous présenter ce sujet intéressant.
Bien, merci beaucoup de m'accueillir. Et comme je l'ai dit à Clarisse Godard-Desmarais, une invitation au Collège des Écossais, ça ne se refuse pas. Voilà, donc je suis très très heureuse d'être dans ces murs. Alors en fait, quand on avait un peu parlé de ce que je pourrais faire, j'avais suggéré plusieurs pistes. Et celle-là me semblait la plus, on va dire, appropriée pour une conférence. Et puis en travaillant un peu plus sérieusement dessus, je me suis rendu compte que même ce qui me semblait relativement circonscrit c'était un menu trop copieux. Donc je vais parler de la cour jacobite de Rome, mais en fait, je vais surtout parler de Jacques. Parce que rien que ça va m'occuper suffisamment pour cette conférence. Alors, juste deux petites remarques, liminaires. Mon instinct naturel est de parler de Jacques 7 et Jacques 8, en tant que scotticisante, mais comme je sais que souvent ça perturbe les auditeurs qui ont plus l'habitude de parler de Jacques II et Jacques III, donc ma langue va peut-être fourcher, mais normalement, je parlerai de Jacques II et de Jacques III, et éventuellement, pour de temps en temps, un peu varier, pour Jacques III, je dirais le vieux prétendant. Enfin bon, on parle bien de la même personne. Et donc, je suis quand même contente qu'on ait réussi à faire marcher le vidéoprojecteur, parce qu'en fait, beaucoup de citations que je vais faire sont en fait des traductions de mon fait et pas forcément très très travaillé. Donc je préfère que pour ceux d'entre vous qui maîtrisent l'anglais, vous ayez les textes originaux. Voilà, je ne pense pas avoir perverti le sens, mais ma prose n'est pas forcément à la hauteur de la correspondance. Donc je vais maintenant commencer. Donc, en avril 1737, convaincu que même si elle survenait trop tard pour qu'il en soit témoin, la restauration des Stuarts ne saurait tarder outre mesure, Lewis Innes fait parvenir à Jacques III, donc le vieux prétendant, à Rome, une copie authentique des instructions que son père, Jacques II, avait rédigées à son intention alors qu'il était prince de Galles et dont l'original se trouve au Collège des Écossais à Paris. Innes en profite pour rappeler à son correspondant qu'en conséquence de l'exhortation de son père à faire le nécessaire pour permettre au Collège des Écossais de former un plus grand nombre de prêtres pour la mission d'Écosse, il s'était engagé à établir une fondation au Collège s'il recouvrait sa couronne. C'était la condition. Et je vais demander de passer à la prochaine. Voilà. Donc, il évoque également l'engagement qu'avait pris Jacques III envers Charles Innes, son frère. Donc c'est la partie qui est surlignée. Cette promesse est faite eu égard aux souffrances et aux pertes subies par ma pauvre famille, qui en raison de sa religion catholique et de sa loyauté durant la rébellion contre le roi Charles Ier et depuis la Révolution glorieuse de 1688, a été presque entièrement ruinée. Votre Majesté a bien voulu ajouter que c'était également en considération des quelques services que j'ai pu rendre au bienheureux roi votre père et à vous-même. C'est pour ces raisons que votre Majesté a bien voulu promettre de verser la somme de 2000 livres à mon frère Charles, lorsque Dieu voudra bien rétablir votre Majesté sur le trône. Donc cette lettre souligne à la fois l'ancienneté et la force des liens noués entre Lewis Innes, mais aussi sa famille tout entière, et la dynastie des Stuarts, et plus particulièrement donc ces liens à la cause jacobite depuis la Révolution glorieuse. Donc ce soutien aux Stuarts est indissociable de l'adhésion de la famille Innes à la foi catholique. On peut par ailleurs véritablement parler de dynastie au sujet des Innes, puisque cette famille compte plusieurs générations d'ecclésiastiques, dont certains remplissent des fonctions clés au sein de la mission d'Écosse, notamment au Collège des Écossais à Paris, tout au long du XVIIIe siècle. Et je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, alors c'est évidemment un arbre généalogique assez rudimentaire, mais j'espère quand même assez clair. Donc James Innes a eu 6 fils, dont les 2 aînés, Lewis et Thomas, sont les frères Innes mentionnés dans le titre de la conférence. 2 des 4 frères, donc 2 des 4 autres membres de la fratrie sont aussi prêtres. Il y a d'un côté John Innes, qui est un jésuite, qui a fait ses études en Flandre, puis à Vienne, puis est devenu missionnaire en Russie, avant de rentrer en Écosse, où il est mort. Et bien que jésuite, il a d'excellentes relations avec ses frères, et à l'époque, ça ne pose pas problème. Walter, donc l'autre frère, est prêtre. Il officie d'abord en Écosse, puis il est banni d'Écosse. Il est nommé à Rome pour être l'agent de la mission d'Écosse. Et normalement, ça va être un peu plus compliqué comme c'est moi qui le fait. Donc j'avais une photo, une reproduction d'une lettre qu'a faite Marie de Modène pour recommander Walter au cardinal de Jansson. Donc il part à Rome, puis il rentre de nouveau en Écosse pour être officier dans la mission, comme simple prêtre. Et il passe beaucoup de temps en prison et il finit épuisé évidemment par toutes ces pérégrinations et aussi la difficulté que c'était d'être prêtre en Écosse à l'époque. Il décide de rentrer en France et en fait meurt peu de temps après son retour. Quelques semaines après son retour, il meurt de maladie en fait. Alors à la génération suivante, on voit que suivant un schéma éprouvé dans les familles catholiques, notamment les familles catholiques, on va dire aristocratiques, bien entendu pour assurer la pérennité de la famille, à chaque génération, vous avez quand même un ou deux fils qui ne sont pas prêtres, parce qu'autrement la famille s'éteint. Et donc on voit que là, les deux frères qui n'ont pas embrassé l'état ecclésiastique ont chacun un fils, enfin ils ont des enfants, mais à chacun un fils devient prêtre. Alors d'un côté Robert Innes, qui est lui aussi jésuite et qui a été banni en 1751 d'Écosse, mais qui, on ne sait pas exactement quand il est mort, mais enfin il est donc banni. Et lui, contrairement à son oncle John Innes, va être vraiment une épine dans la chair des frères Innes, parce qu'il fait partie, c'est pas lui qui l'a impulsé, mais il fait partie d'une chasse, non pas aux sorcières, mais d'une chasse aux jansénistes, dont la principale cible est Thomas Innes. Donc c'est quelque chose que Thomas Innes va très très mal vivre, que les attaques les plus acerbes viennent de son propre neveu. Alors, contrairement à son cousin Robert Innes, George Innes, lui, est dans le droit fil de ses oncles, puisqu'il fait l'essentiel de sa carrière, carrière au Collège des Écossais à Paris, et il succède, on peut dire, d'abord à Thomas en tant que préfet des études, et ensuite à Louis en tant que principal. Et on voit que le schéma se répète. Les deux fils de James qui deviennent prêtres, Henry et Alexander, sont des figures aussi marquantes du Collège des Écossais. Alors Henry Innes a point nommé quitte le Collège des Écossais en 1789 pour devenir aumônier d'une famille catholique anglaise. Il a senti que c'était peut-être pas que c'était bien de partir. En revanche, son frère Alexander, lui, va rester. Et bien que la terreur ait failli lui coûter la vie, vraiment, il en réchappe de peu, on va dire. Il reste à Paris. On peut dire qu'il est le dernier principal. Il n'en a jamais eu le titre. Mais quand le dernier principal officiel, Alexander Gordon, prend la fuite en 92, il reste. Il va rester jusqu'à sa mort prématurée en 1803. Et il se bat jusqu'à sa mort pour essayer à la fois de sauver ce qui peut être sauvé et de récupérer ce qui a été pris, notamment la bibliothèque du Collège des Écossais. Et donc leur frère Louis a deux enfants, William Inès et Marie Inès. William est prêtre en Écosse et Marie Inès a d'abord été bénédictine, puis devenue, quand son couvent à Pontoise, je crois, a fermé, elle est devenue Clarisse. Donc je n'ai pas poursuivi l'arbre généalogique outre ces générations-là, parce que je suis en fait 18e-iste et que pour l'histoire du Collège des Écossais, évidemment, ça s'arrête là. Alors, ce bref exposé de la diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, alors, vous pouvez tout de suite passer en fait à la suivante encore, parce que c'était celle que ça c'était là. Voilà. Donc le collège des Écossais. Ce bref exposé de la famille Inès témoigne de sa longue association avec le Collège des Écossais de Paris. Le rôle central de ce collège dans les circuits jacobites durant les années où la cour en exil est installée à Saint-Germain-en-Laye jusque 1713, donc, ainsi que dans la période qui a suivi la rébellion de 1745, a donné lieu à quelques études, notamment de Nathalie Genet-Rouffiac et d'Edward Corp. Mais la période intermédiaire a été beaucoup moins explorée, c'est-à-dire la période où Jacques est à Rome. Et donc, on peut expliquer cette absence d'études par le départ de la cour jacobite de Saint-Germain-en-Laye, puisqu'au lendemain du traité d'Utrecht, Jacques III et sa cour s'installent d'abord à Bar-le-Duc, en Lorraine, puis à Avignon, puis enfin, après quelques étapes en divers lieux, à Rome. Une autre raison qui peut expliquer le désintérêt relatif des historiens pour cette période est la décision prise en 1718 par Jacques de démettre de ses fonctions officielles Louis Inès, figure dominante à la fois de la cour de Saint-Germain-en-Laye et du Collège des Écossais. Donc il me semble à propos de présenter, avant de parler de cette période-là, les éléments de contexte indispensables à une meilleure compréhension de la nature de la relation qui existe entre les frères Inès et la cour jacobite de Rome. Alors la première rencontre entre celui qui n'est alors que le duc d'Albany, le duc d'York pour les Anglais, et Louis Inès a lieu en 1684, lors d'un voyage d'Inès en Grande-Bretagne. Il semblerait que Louis ait plaidé avec succès la cause du Collège des Écossais, puisque Jacques promet de le soutenir, y compris financièrement, ce qu'il fait, effectivement. Inès fait par ailleurs excellente impression à Jacques II, qui, en 1688, fixe son choix sur lui pour devenir le premier évêque de la mission d'Écosse. Donc, ce n'est pas la mission d'Écosse, c'est-à-dire l'Église catholique en Écosse, qui n'est toujours pas officielle, puisque le catholicisme est illégal, enfin hors la loi en Écosse, mais il existe quand même une mission et qui veut se développer. Et donc il pense que ce serait bien d'avoir un évêque à leur tête et Jacques choisit Louis Inès. Cependant, il n'a pas le temps de mener son plan à bien puisqu'il est chassé du trône la même année et il se réfugie à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Donc là, c'est voilà, Louis XIV qui accueille Jacques II à son arrivée. Alors, Louis Inès s'installe à Saint-Germain-en-Laye, tout en restant principal du Collège des Écossais. C'est quelque chose que les historiens aujourd'hui lui reprochent en disant qu'il a donné la priorité à ses fonctions à la cour et qu'il aurait dû, ayant fait ça, démissionner, se démettre de ses fonctions, et il ne le fait qu'au moment où Jacques lui demande de le suivre à Bar-le-Duc. Là, il se dit que quand même, il ne peut pas être principal du collège tout en vivant à Bar-le-Duc, et c'est le moment où il se démet de ses fonctions. Prochaine diapositive. Merci. Donc, pendant plus d'un quart de siècle, Louis Inès tient une place considérable à la cour jacobite. Dès les années 1690, il est l'aumônier de la reine Marie de Modène, là, donc on voit Jacques II en famille, qui a pleine confiance en lui. Il est très, très proche de Marie de Modène. Et il devient également aumônier de Jacques III en 1713 et le reste jusqu'en 1718. Par ailleurs, sans en avoir toujours le titre de manière officielle, il occupe auprès de Jacques II les fonctions de ministre pour l'Écosse, entre autres, et plus tard, il occupera on va dire une fonction de conseiller politique de son fils, donc Jacques III, avec un intérêt marqué pour les affaires étrangères et la diplomatie. Sans doute par la force des choses, étant donné la situation de Jacques, qui sait que sa restauration éventuelle passe par le concours de puissance étrangère. Jacques ne peut pas retrouver son trône juste par miracle. Il faut absolument qu'il soit soutenu soit par la France, soit par l'Espagne, voire même à un moment, il y a des négociations, enfin des tractations avec la Suède. Donc, au début des années 1690, la découverte par Thomas Innes d'une charte dans les archives du Collège des Écossais vient renforcer les liens de Jacques II, tant avec les frères Innes qu'avec le Collège écossais, cette fois-ci en tant qu'institution. Parce que cette charte conforte la légitimité des Stuarts, parce qu'elle prouve, alors c'est un petit peu compliqué, mais parce qu'elle prouve que Robert II, le premier monarque de la dynastie Stuart, a bien fait ériger à Glasgow une chapelle qu'il s'était engagé à construire pour obtenir une dispense du pape pour épouser sa cousine Elizabeth Moore. Donc, certains disaient, oui, en fait, cette chapelle, il ne l'a pas construite, donc son mariage n'est pas légitime, donc les enfants issus de ce mariage ne sont pas légitimes, la dynastie Stuart n'est pas légitime. Donc, en trouvant cette charte qui prouve que la chapelle a été construite, on prouve que la dynastie est légitime. Donc, dans un décret de 1697, Jacques II met explicitement en corrélation la découverte puis la publication de cette charte, qu'il attribue à Louis Innes, en fait, c'est Louis Innes qui l'a publié, mais c'est Thomas qui l'a trouvé, avec la décision mentionnée plus haut d'octroyer une rente annuelle au Collège des Écossais dans les 6 mois suivant sa restauration. Et il est à noter que dans ce décret, Jacques utilise le possessif « our », notre collège. Possessif qu'adopte son fils après lui. Et les frères Innes reprennent ce possessif quand ils écrivent, souvent pour demander des choses, évidemment, pour solliciter Jacques, ils lui parlent toujours de son collège. Le décret par lequel Jacques II ordonne en 1701, année de sa mort, le dépôt de ses mémoires dans les archives du Collège des Écossais, souligne la proximité du monarque avec son fidèle et bien-aimé, Monsieur Louis Innes. Diapositive. Ayant une connaissance particulière de votre zèle, de votre discrétion et de votre affection pour nous et pour notre service, nous avons jugé bon de vous confier tous nos mémoires originaux écrits de notre propre main, en témoignage de notre confiance en vous, et nous vous autorisons par la présente à prendre en charge et à conserver ces mémoires dans les archives de notre collège écossais à Paris, où ils resteront comme une marque durable de notre confiance en vous et de notre affection pour votre collège. Bon, notre collège, pardon. Donc, au fil du temps, d'autres collections d'archives liées à la cour jacobite sont déposées au collège et les frères Innes deviennent en quelque sorte les gardiens de la mémoire de Jacques II et plus généralement de la dynastie des Stuarts. Et ils ont, j'allais dire, vraiment le droit, c'est eux qui ont les clés. Alors, ils attendent toujours d'abord un ordre, soit de Jacques II, soit de Jacques III, mais in fine, c'est eux qui, disons, ouvre ou pas l'accès à ces archives. Donc en 1703, peu après le décès de Jacques II, Louis Innes dresse un inventaire des manuscrits Stuarts. Et lorsqu'il décède en février 1738, son frère s'empresse d'établir de nouveaux inventaires à l'intention du vieux prétendant. Prochaine diapositive. Alors les deux premiers, là c'est juste c'est évidemment plus long, mais c'est juste le début. Et là, d'ailleurs, à gauche, c'est l'écriture de Thomas Innes, et à droite, à part c'est l'écriture en fait de Georges Innes. Alors, les deux premiers inventaires, dont celui que vous avez à votre gauche, c'est l'inventaire des archives Stuart. Mais quelques semaines ou mois plus tard, Thomas Innes, qui a pris le temps de passer en revue toutes les archives personnelles de son frère, Louis, ajoute donc la liste, c'est ce qu'il écrit là, enfin un index, des documents tant manuscrits qu'imprimés relatifs aux affaires des rois Jacques II et Jacques III qu'il a trouvé dans les papiers de son frère. Et cette liste laisse deviner le rôle que joue Louis Innes dans l'élaboration de la stratégie politique du vieux prétendant dans les premières années de son règne. Donc je vais parler de son règne, parce que c'est plus simple que de dire de son prétendu règne ou bon. Donc la correspondance échangée entre les deux hommes confirme ce sentiment. Alors même qu'il est sur le point d'embarquer pour l'Écosse en 1715, Jacques écrit à plusieurs reprises à Louis Innes, notamment de Saint-Malo, pour l'informer de la situation et des derniers développements. Et contrairement à ce qui est parfois avancé, Inès n'a pas accompagné Jacques en Écosse en 1715. Inès n'est pas un nom terriblement rare, hein, et certains chercheurs ont trouvé le nom Inès parmi des personnes qui se trouvaient là, mais ce n'est pas Louis Inès. Mais il a, de manière évidente, rempli un rôle de coordination entre les différents acteurs restés en France. Et lorsqu'au lendemain de l'échec de la rébellion de 1715, la Grande-Bretagne et la France signent un traité par lequel cette dernière s'engage à contraindre Jacques de quitter Avignon et de passer les Alpes, puisque entre Saint-Germain-en-Laye et Rome, il avait été aussi à Avignon, Inès tente de convaincre le marquis d'Uxelles, qui est l'équivalent, on peut dire qu'aujourd'hui on dirait que c'était le ministre des Affaires étrangères, de ne pas céder aux injonctions de Georges Ier et de trouver un moyen terme qui permette à Jacques de ne pas perdre la face, quitter Avignon, mais ne pas passer les Alpes. Et il affirme, c'est la prochaine diapositive, que tous ses amis de l'Angleterre, donc ça c'est la relation de l'entretien qu'il a eu, donc il affirme que tous les amis en Angleterre et de tous côtés vont unanimement conseiller à Jacques de ne pas sortir d'Avignon, que les troupes de France soient actuellement entrées dans la place. C'est-à-dire que Jacques ne quittera les lieux que sous la force des armes françaises, enfin que sous la menace des armes françaises. Alors ça, c'est ce qu'il dit au ministre des Affaires étrangères. Mais dans la lettre à Jacques qui accompagne le compte-rendu de son entretien avec Uxelles, Inès indique clairement que ce n'est qu'une manœuvre. J'insistais un peu sur l'opinion unanime des amis de Jacques, qui lui conseillait de résister jusqu'au bout, afin que si Jacques en venait à se plier à la volonté du régent, ce dont je ne doute guère, bien que je n'en ai rien dit à Uxelles, sa soumission n'en ait que plus de mérite aux yeux du régent, qui la désire ardemment. Par ailleurs, il contribue à la rédaction de documents essentiels, tels les déclarations ou les protestations de Jacques III publiées à des moments clés, en donnant son avis et en suggérant le cas échéant des modifications, des ajouts aux textes qui lui sont soumis par Jacques. Il participe aussi à l'élaboration du récit officiel de la rébellion jacobite de 1715, notamment à la rédaction de ce qu'on appelait « A letter from an officer in the King's army after it had marched northwards from Aberdeen ». Et c'est assez intéressant, ça c'est pas le premier état, c'est la première version a été écrite par le comte de Mar. Et en fait, c'est une justification de la façon dont Jacques et Mar ont quitté, on va dire, abruptement l'Écosse en laissant sur place tous ceux qui s'étaient battus pour eux. Et donc c'est une réécriture, si vous voulez, de l'histoire pour justifier la fin, on va dire, quand même relativement peu glorieuse de la rébellion. Donc Mar écrit la première version. À partir de la version de Mar, Inès reprend ce qu'il a fait et change beaucoup de choses. Puis ça c'est l'écriture de Louis Inès. Et il y avait dans la marge, dont je vous l'ai mis plus bas, ça c'est donc le texte de Monsieur Inès amendé par le roi. Et donc les choses qui sont barrées et les choses qui sont dans les aimants dans la marge. Donc on voit que c'est une écriture, on pourrait dire, presque à six mains. Et c'est effectivement quelque chose qui est publié. Il en existe notamment un exemplaire à la Bodléienne. Donc enfin, je veux dire, ce n'est pas juste un projet, c'est quelque chose qui a été diffusé. La même année, il co-signe avec John Ingleton un document qui affirme que Jacques, qui est catholique, ne peut pas en conscience promettre de défendre et de maintenir l'Église d'Angleterre telle qu'elle a été établie par la loi, qui est une formule qui est proposée dans une déclaration qu'il veut faire. Donc il préconise une autre formulation qui permettrait à Jacques de contenter ses partisans protestants tout en ne reniant pas les principes de sa propre foi. Cette question est essentielle parce que Jacques, comme son père, Jacques III comme son père, refuse catégoriquement de se convertir. C'est ce que tous ses partisans jacobites en Angleterre lui disent. Il y aurait eu une avenue pour lui s'il s'était converti au protestantisme en 1714, au moment où on passe la dynastie des Hanovres. Il refuse. Et donc, ce qu'il y a, j'allais dire, de moins pire, c'est d'essayer de convaincre les protestants que tout en étant catholique, il peut être le roi d'un pays protestant. Et donc on trouve dans la liste ou l'index de Thomas Inès des papiers de Louis Inès, qui ont beaucoup de documents, enfin, un certain nombre de documents qui ont trait à ce débat. Et il est frappant par ailleurs de constater que le document le plus récent de l'index date de 1717, pardon, à savoir quelques mois seulement avant la disgrâce de Louis Inès. En effet, fin février 1718, Jacques le démet de ses fonctions et exige de sa mère, Marie Modène, qu'elle en fasse autant. Alors les innombrables, en fait j'aurais pu presque faire une conférence juste sur les lettres qui ont été écrites par le comte de Mar et par Jacques pour expliquer en France, en Navarre, en Italie, dans les états du pape et en Angleterre les raisons pour lesquelles Inès n'est plus ni l'aumônier, ni n'a plus aucun rôle à la cour jacobine. Donc ces innombrables lettres témoignent à la fois de la place cruciale de Louis Inès dans les réseaux jacobites et de la nécessité qu'éprouve Jacques de se justifier pour prévenir ou pour empêcher, je devrais dire, toute retombée négative qu'elle pourrait avoir. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que de son propre aveu, Jacques n'a pas l'intention de rendre publique la véritable raison de la disgrâce de Louis Inès. Donc, il écrit beaucoup de lettres, mais sans jamais dire clairement ce dont il retourne. Donc, elle n'est donc pas énoncée dans la majeure partie des lettres, à commencer par celle qui annonce la nouvelle au principal intéressé. Et dans les rares lettres où un motif est avancé, il varie suivant les destinataires. Donc dans ses lettres à Galterio, qui est le cardinal protecteur d'Angleterre, ou au duc d'Ormande, Jacques affirme qu'Inès aurait, par le moyen d'une copie tronquée, perverti le sens d'une lettre du monarque dont la vraie et unique intention était de montrer que sa propre religion ne l'empêchait pas d'accorder toute protection et faveur aux protestants. Donc, d'après ces lettres-là, le péché d'Inès, c'est d'avoir laissé entendre que Jacques était prêt, disons, à transiger avec sa propre foi pour obtenir l'assentiment des protestants anglais. Mais Jacques avance une toute autre explication dans sa lettre au père Gaillard, confesseur de la reine-mère, donc le mari de Modène. Il a agi sur de sages et solides fondements que son correspondant doit prendre le temps d'expliquer à sa mère. Parce que lui dit qu'il ne peut pas expliquer à sa mère, donc c'est Gaillard qui doit expliquer. La principale raison qui m'a déterminée à éloigner M. Inès de mes affaires est que je ne voyais que trop par les manœuvres qu'il faisait et dont il était capable, il ne pouvait manquer de me brouiller avec la reine. Comme je ne puis douter que M. Inès ne fasse de son mieux à présent pour la prévenir contre moi en sa faveur, je vous conjure et vous supplie de lui découvrir la droiture et la sincérité de mes sentiments et de mes actions, afin qu'en rendant justice à l'un et à l'autre, elle soit en paix et en repos. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc Jacques est persuadé qu'Inès est la source de tous les malentendus parmi ses courtisans en France. Et il répond d'avance à ceux qui prétendraient qu'il se laisse manipuler par le comte de Mar, que cela vaut mieux que de voir Inès tirer les ficelles. Alors aujourd'hui, évidemment, avec le recul, hein, on est toujours plus sage avec le recul, on sait que le traître à la cause jacobite fut Mar, hein, alors même que Louis Inès n'eut de cesse que la dynastie Stuart fut rétablie. Alors bien que Jacques s'en défende, un grand ressentiment à l'encontre d'Inès perce dans la correspondance de mars 1718. Je prends Dieu à témoin que j'ai agi ni par pique, ni par vue particulière, mais simplement par devoir, pour prévenir les suites d'une conduite qui pourrait me tant préjudicier et pour empêcher les tracasseries que je voyais claires comme le jour que M. Inès me ferait. Dieu seul sait peut savoir à quel dessein. Après avoir éloigné M. Inès des affaires, je l'épargnerai dans le monde autant que je pourrai. Quoique je n'exige de personne de tomber sur lui plus que de raison, je vous avoue que je crois qu'on ne le saurait justifier entièrement sans autoriser la mauvaise foi, et cela à mon préjudice. Donc il ne lui en veut pas, il ne veut pas du tout. Et dans plusieurs lettres d'ailleurs, Mar écrit à des personnes en Angleterre et en Écosse, le roi ne vous demande pas de cesser toute relation avec Inès, parce qu'ils savent que s'ils demandent ça, ça va vraiment créer des problèmes, simplement ne parlez plus du tout des affaires jacobites avec lui. Vous pouvez être amis avec lui, mais plus rien qui soit en lien avec les affaires du roi. Toutefois, il conserve son soutien au frère de Louis, Thomas, qu'il avait recommandé quelques semaines auparavant au cardinal de Noailles. Il fait savoir au cardinal que l'éloignement de Louis des affaires ne l'empêche pas de prendre un égal intérêt dans celle de son frère, Thomas. Donc. Cet intérêt naît de la mission qu'il a confiée à Thomas Innes 18 mois plus tôt, au lendemain de l'échec de la rébellion de 1715. Il l'a en effet exhorté à s'atteler sans tarder à l'écriture d'une histoire de l'Écosse, des origines du christianisme à l'union des couronnes, qui viendrait corriger les fautes et les erreurs des historiens qui l'ont précédé, à commencer par Boyce et Buchanan, qui font alors autorité. Louis Innes se montre particulièrement atteint par la décision de Jacques, même s'il l'accepte. Dans une lettre circonstanciée au comte de Marc, qui mérite d'être citée, je vais en donner plusieurs citations, mais qui est elle est encore beaucoup plus longue que ça. Il ne cherche pas à faire changer d'avis Jacques, donc il ne se justifie pas, mais soutient qu'il ignore les raisons de son éviction. Je découvre non seulement que le roi souhaite que je ne m'occupe plus de ses affaires, mais aussi, ce qui m'affecte bien davantage, que Sa Majesté est offensée à mon égard. Comme il pourrait donc sembler irrespectueux de lui écrire moi-même, alors que j'ai le malheur d'être en disgrâce, je vous prie d'avoir l'amabilité d'assurer au roi que c'est pour moi une grande peine et un grand chagrin de constater que j'ai offensé Sa Majesté. Prochaine. Vous dites que je sais mieux que quiconque ce qui a poussé le roi à agir ainsi. Je proteste sincèrement et déclare que je ne sais ni ne peux deviner ce que j'ai fait pour offenser le roi, à moins que ce ne soit d'avoir exprimé ma pensée plus librement qu'il ne l'aurait peut-être souhaité. Mais pour ma défense, je tiens à préciser que j'avais non seulement l'autorisation de Sa Majesté, mais aussi son instruction réitérée de lui écrire librement tout ce que je pensais être dans son intérêt. Et j'ai souvent constaté que lorsque mes propositions allaient contre l'opinion de Sa Majesté, loin d'être offensé, il m'a encouragé à continuer de lui écrire avec la même liberté. Ce qui m'a poussé à persévérer, c'est que le roi avait jugé bon de m'assurer que s'il trouvait à reduire à ma conduite, il m'en ferait part lui-même. Or, il est certain que cela n'a jamais été le cas. En outre, visiblement conscient de l'onde de choc de cette décision, que cette décision risque d'entraîner dans les milieux jacobites tant en France qu'à l'étranger, Innes assure qu'il fera tout pour empêcher les controverses. Prochaine diapositive. Je vais ici exposer clairement et sincèrement ce que je dirai à ceux qui m'interrogent à ce sujet, à savoir que la décision du roi de m'empêcher désormais de me mêler de ses affaires est juste et raisonnable, que j'ai toujours été d'avis qu'il n'était pas convenable pour un prêtre de s'immiscer dans les affaires temporelles de Sa Majesté, que le roi et la reine-mère savent que j'ai souvent sincèrement imploré d'être dispensé de m'occuper de leurs affaires, que c'est uniquement par obéissance aux ordres de leur majesté que j'ai continué à m'en mêler, et que par conséquent, loin de murmurer ou de me plaindre, j'approuve de tout cœur la décision du roi de me mettre à l'écart. Innes est alors âgé de 65 ans, et son soulagement à être déchargé des affaires politiques semble tout aussi sincère que son affliction. Dans un premier temps, il espère trouver consolation auprès de Marie de Modène, dont il est, je rappelle, très très proche. Mais la reine-mère meurt début mai. Et curieusement, c'est ce décès qui va lui procurer l'occasion de renouer ses liens avec Jacques. En effet, Marie de Modène avait couché Louis Innes sur son testament, lui léguant une partie de sa bibliothèque et des effets de sa chapelle à Saint-Germain. Donc 3 mois à peine après l'annonce de son éviction, Innes écrit donc à Jacques pour le remercier, mais aussi pour tenter de mettre un terme à la contrariété engendrée par l'incompréhension de ce changement de situation. Il continue de ne pas comprendre pourquoi il a été évincé. J'espère que votre majesté n'aura jamais de raison de me juger indigne des marques de votre faveur royale dont j'ai si souvent bénéficié et dont je garderai un souvenir reconnaissant tant que je vivrai. Le changement récent dans votre attitude à mon égard m'est d'autant plus pénible et inquiétant que je suis conscient de la bonté dont votre majesté a fait preuve à mon égard par le passé, de sorte que mon esprit aurait été accablé si la bienheureuse reine ne m'avait pas assuré que le mécontentement de votre majesté était fondé sur de fausses informations et des erreurs qu'elle avait entièrement dissipées dans ses lettres à votre majesté, et que j'aurais des raisons d'être satisfait des réponses qu'elle attendait. Mais il a plu à Dieu de la rappeler à lui avant que ses réponses ne parviennent ici. Aussi, je n'ai plus d'autre recours désormais que de m'adresser immédiatement à la bonté innée de votre majesté pour obtenir le réconfort dont j'ai tant besoin. Alors les Stuart Papers qui sont maintenant, enfin qu'on peut trouver dans certaines bibliothèques, malheureusement pas en France, donc qui ont été numérisés, mais l'index est fait de manière assez étrange, et je l'ai pas encore trouvé la trace de la réponse de Jacques, mais la lettre rédigée par Louis Sinès début août 1718 ne laisse planer aucun doute sur ce que cette fameuse lettre contenait. Prochaine diapositive. Apprendre de la main même de votre majesté que j'ai toujours le bonheur d'être sous votre protection royale et de bénéficier de votre faveur a été un réconfort dont j'avais, je l'avoue, grand besoin. Et c'est là une charité digne de votre majesté que d'en donner avec autant de grâce l'assurance à un vieux serviteur. Donc Louis Sinès n'est pas officiellement rétabli dans ses fonctions, ce qu'il ne souhaite manifestement pas. Il est tout à fait content de sa situation. Mais cet échange épistolaire marque la reprise d'une correspondance régulière et fréquente. À certaines périodes d'activité intense, elle est quasi hebdomadaire et ne s'espace que lorsque les soucis de santé de Louis Sinès l'empêchent d'écrire, ce qui ne manque pas d'inquiéter Jacques. De son côté, Inès s'alarme du moindre silence prolongé de Jacques, craignant y voir le signe d'une nouvelle disgrâce. On peut comprendre qu'avec la soudaineté de sa première disgrâce, il se pose des questions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et là, c'est juste deux exemples où Jacques le rassérène. D'abord, en 1726, il lui écrit « Mon silence n'est en aucun cas dû à un manque de considération à votre égard. Je peux vous assurer que personne n'a cherché à vous nuire et je vous connais trop bien pour permettre une telle chose. » Et là, en l'occurrence, quand il dit « Personne n'a cherché à vous nuire », Inès est tellement inquiet qu'il écrit à Lord Inverness en lui disant « Je n'ai pas reçu de lettre. Est-ce que vous savez si certaines personnes complotent contre moi ?» Et donc, Inverness envoie la lettre d'Inès à Jacques pour dire « Pourquoi vous ne lui avez pas écrit ? Il est inquiet. » Et Jacques écrit donc à Inès pour dire « Non, il ne se passe rien. » Et vous avez un autre exemple. Dans cet autre exemple, c'est plus là « Vous ne devriez avoir aucune inquiétude quant à ce que vous m'écrivez. » Donc là, de nouveau, Inès s'inquiète de savoir s'il a offensé Jacques par ses écrits. Et Jacques, lui, dit notamment « J'attends de vous que vous vous exprimiez en toute liberté. » Donc ça corrobore ce que disait Inès dans sa lettre à Mar. « Jacques m'a toujours demandé de m'exprimer le plus librement possible. » De fait, dans cette nouvelle phase de leur relation, Louis Sinès ne se prive pas, à certains moments, d'exposer ses vues en détail lorsque Jacques le sollicite. Et en 1721-1722, alors qu'un complot jacobite se prépare en Angleterre, Inès rédige plusieurs mémoires. Jacques le remercie pour les informations d'une importance capitale qu'ils contiennent et lui rappelle l'estime qu'il porte à ses écrits et combien ses conseils et ses réflexions lui sont précieux. Inès prend toujours soin de préciser qu'il ne s'agit pas d'endosser un quelconque rôle officiel, mais simplement de contribuer à sa modeste mesure au rétablissement de Jacques sur le trône. Prochaine diapositive. Et alors, à chaque fois que qu'Inès intervient, il y a toujours au départ, soit il attend un ordre officiel de Jacques lui disant « je veux votre avis sur telle ou telle chose », soit il écrit en disant « mais surtout ne pensez pas que j'essaye de m'immiscer, je vous donne juste mon avis ». Et donc là, c'est au moment donc de ce complot qui se prépare. La situation de votre majesté peut être, pour vous donner un peu des exemples de la façon dont il traite les choses, la situation de votre majesté peut être envisagée sous deux angles différents. D'une part, le retour au pays, c'est-à-dire la conquête du territoire, et d'autre part, la gestion du territoire une fois sur place. Je ne suis plus en mesure d'apporter mon aide concernant le premier point, mais je me réjouis que votre majesté reçoive avec tant de bienveillance le peu que je puisse offrir pour le second. Nombreux sont ceux qui se sont mobilisés et s'emploient encore à aider votre majesté à atteindre le premier objectif. Mais avec l'aide de Dieu, la réussite du second, c'est-à-dire se maintenir sur le trône, relève de votre propre responsabilité et dépendra principalement, sinon exclusivement, de votre conduite et de votre gestion personnelle. Or, à moins que votre majesté n'ait préalablement établi son plan et pris ses résolutions, au moins sur les plans essentiels, conserver le territoire, se maintenir sur le trône avec dignité, s'avérera tout aussi difficile que d'en obtenir le contrôle. Et donc là, Inès développe assez longuement les mesures qu'il pense que Jacques devrait prendre une fois qu'il sera de retour, mais qu'il doit avoir, donc, si je voulais, c'est un plan, non pas ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas seulement un plan de conquête, il faut ce que maintenant on appelle le jour d'après. Et donc, c'est ce fameux jour d'après qu'Inès développe dans cette lettre. Et donc, Inès a à cœur d'ajouter sa pierre à l'édifice, notamment sur la politique qu'il conviendrait de mener en Écosse, sans pour autant espérer en tirer un quelconque avantage. Prochaine diapositive. Ouais. Conformément aux ordres de Votre Majesté, j'ai consigné dans le mémoire 6 juin ce qu'il me semblait le plus important de soumettre à votre attention concernant votre ancien royaume d'Écosse. C'est un très long mémoire. Tout ce que je peux dire pour ma défense, c'est qu'étant donné mon âge et ma situation, il semble assez évident que n'ayant plus grand-chose à espérer ni à craindre de quiconque en ce monde, rien ne peut influencer ce que j'ai dit dans ce document et dans les précédents, si ce n'est le devoir que j'ai envers votre majesté, ce qui fait de moi un cas singulier. Autre façon de dire, je suis probablement le seul à n'avoir aucune arrière-pensée lorsque je vous donne mon opinion. Lorsque Georges Ier meurt soudainement en 1727, Inès s'empresse d'écrire à Jacques pour le conseiller sur la conduite à tenir. Il l'enjoint de quitter Rome. Prochaine diapositive. Votre Majesté m'ayant souvent demandé de vous faire part de tout ce que je jugeais utile à votre service, j'obéis à cet ordre, on voit toujours quand même les précautions qu'il prend à expliquer pourquoi il s'exprime. J'obéis à cet ordre lorsque j'avance que si Votre Majesté reste où elle est, c'est-à-dire à Rome, cela ne pourra que vous porter préjudice. Je ne saurais me prononcer sur la destination que Votre Majesté devrait choisir, Avignon, la France ou la Flandre, mais je pense humblement qu'il serait absolument souhaitable que Votre Majesté se rapproche de la Grande-Bretagne. Si la mort de Georges Ier provoquait des troubles en Grande-Bretagne, ce qui n'est pas improbable, cela encouragerait les amis de votre majesté de savoir que vous vous rapprochez d'eux et que même si vous ne disposez pas d'une armée pour leur venir en aide, vous êtes toujours prêt à risquer votre personne. Et effectivement, Jacques est dans une position assez délicate en 1727 parce que les différents traités, à la fois avec l'Espagne et avec la France, l'ont privé du secours militaire de la France et de l'Espagne sur lesquels reposaient ses tentatives précédentes, notamment l'aide de l'Espagne en 1719. Les deux années suivantes, marquées par le congrès de Soissons et le traité de Séville, donc de nouveau des accords entre la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et les Provinces-Unies, donc comme ces années sont marquées par ces négociations et ces traités, Inès continue de rédiger de longues lettres ou mémoires qui évoquent les stratégies politiques des uns et des autres. Et j'avoue que bien que 18e, j'ai dû me replonger dans tous ces traités parce qu'il est extrêmement précis et l'échafaud de beaucoup d'hypothèses sur les jeux d'alliance, leurs effets potentiels, sur les chances de restauration de la dynastie Stuart. En 1729, par exemple, à la demande de Jacques, il donne à Daniel O'Brien, qui est comte de Lismore et qui est, on va dire, le principal secrétaire, on pourrait dire secrétaire d'État, mais ce qui maintenant veut dire autre chose, donc le premier ministre, on pourrait dire, de Jacques, qui lui a demandé donc son avis sur les réflexions fort justes et sensées du vieux prétendant au sujet de l'attitude de Charles VI, empereur germanique, face aux autres grandes puissances, alors que se négocie le traité de Séville. Alors ça c'est la lettre Inès s'excuse à la fin en disant à Inès c'est une lettre en français mais je vous l'ai mise parce qu'elle est en français mais pas très 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 lisible parce qu'Inès dit voilà je suis pas très très bien, je n'arrive pas bien à écrire mais comme Jacques a demandé je m'exécute et donc il donne un certain nombre d'hypothèses, il échafaude des hypothèses et il conclut: suivant toutes les apparences, l'empereur prendra bientôt son parti, et s'il est sérieusement résolu d'entrer en guerre, je ne doute pas qu'il ne commence de son côté à faire des propositions au roi, c'est-à-dire à Jacques III, pour s'allier avec Jacques III pour attaquer l'Angleterre. Et s'il n'en fait pas, l'on peut compter que son dessein est d'accéder au traité de Séville, et que son retardement à se déclarer n'est que pour obtenir des conditions plus favorables. On voit comment il essaye aussi d'imaginer la stratégie de l'empereur germanique. Donc avant même le début du congrès de Soissons, Inès incite Jacques à rédiger une protestation, car depuis la malheureuse Révolution, aucune paix générale n'a jamais été conclue sans la publication d'une protestation en votre nom afin d'affirmer votre droit incontestable sur vos royaumes. Façon de dire, par exemple, vous êtes en train de négocier avec Georges Ier, mais en fait, le roi, c'est moi. Je vous rappelle, voilà, donc c'est toujours, il y a toujours ces déclarations qui sont imprimées et qui circulent pour dire ne m'oubliez pas, je suis toujours le prétendant au trône, enfin, en fait le monarque légitime. Les échanges épistolaires témoignent d'une certaine assurance de la part de Louis Sinès à cette époque-là, qui n'hésite pas à apporter la contradiction à Jacques lorsqu'il semble ne pas donner suite à ses remarques. Ainsi, dans cette époque-là, Jacques juge inutile d'énoncer les doléances propres à chacun de ces trois royaumes. Évidemment, il pense que l'Angleterre, c'est celui qui est le plus important. Et préfère une déclaration plus générale, c'est-à-dire plus courte et d'après lui plus efficace, pour fomenter l'opposition au gouvernement britannique actuel, qui est selon lui le seul dessein de la dite déclaration, puisque en 1728-29, il n'envisage pas de rébellion ou d'invasion dans l'immédiat. Donc, Inès concède qu'une énumération exhaustive des griefs des trois royaumes aurait par trop alourdi la déclaration, mais il n'en persiste pas moins à penser que certaines de ces doléances doivent impérativement être mentionnées. Prochaine diapositive. Il ne faut pas omettre l'armée permanente en temps de paix, qui est de loin le grief le plus important et considéré comme tel par les Whigs et les Tories. En effet, son omission pourrait être interprétée par des personnes malveillantes comme l'aveu que votre majesté ne considère pas cela comme un grief et que vous avez l'intention de maintenir une telle armée, ce qui ne pourrait que rendre le peuple encore plus irrité contre votre majesté. Car telle est l'emprise du diable sur eux que bien qu'il tolère en maugréant, j'aime beaucoup cette analogie, que bien qu'il tolère en maugréant une armée permanente pour protéger un usurpateur qui vit sous la crainte d'une invasion, j'ai bien peur que la nation tout entière se soulève plutôt que de subir la même chose sous un roi légitime. Et vient maintenant l'analogie, c'est ce même principe de corruption qui explique que souvent des hommes très raisonnables à d'autres égards subissent les indignités d'une vile créature appelée maîtresse, alors qu'ils se considéreraient déshonorés s'ils les subissaient de la part d'une épouse légitime. Donc, ils acceptent de Georges Ier, qui est un usurpateur, ce qu'ils n'accepteraient pas de Jacques. Une autre omission tout aussi importante, dit-il, donc ça c'est la fin, est de ne faire aucune mention d'une promesse d'indulgence ou de tolérance envers les dissidents, qui sont très nombreux et constituent les hommes les plus riches et les plus actifs de la nation. Cela n'a jamais été omis dans aucune déclaration antérieure. Et là, on peut se souvenir, je ne sais pas si c'est ce qu'il a en tête, mais des relations assez proches, on peut dire, qu'avait eu Jacques II avec les Quakers. Au moment de la déclaration d'indulgence, ce sont quasiment les seuls dissidents en Angleterre à avoir vraiment embrassé, on peut dire, la tolérance qui leur avait été accordée. Plus étonnant encore lorsqu'on garde à l'esprit ce qui a vraisemblablement été l'un des ressorts de sa disgrâce, Louis Sinès argumente longuement contre la formulation choisie par Jacques de protéger l'Église d'Angleterre et conclut, prochaine diapositive, donc vous voyez qu'il y a un long développement, il en revient à des jugements qui ont été faits par Bossuet, enfin d'autres qui ont décidé que ce n'était pas possible d'utiliser cette formule, et il conclut donc: avec tout le respect que je vous dois, je reste sur mon opinion qui est que, tout bien considéré, votre majesté devrait faire cette promesse à l'Église d'Angleterre sous la forme et dans les termes utilisés dans toutes les déclarations précédentes, plutôt que d'utiliser une expression qui, pour de bonnes raisons, a été abandonnée depuis longtemps. Alors, Jacques renonce à publier une déclaration jugeant la conjoncture peu propice. De son côté, Inès reste convaincue jusqu'à la fin de sa vie, à la fois que la restauration de Jacques est proche, voire imminente, le nombre de lettres où il pense que c'est pour cette année, et qu'elle ne peut être pérenne qu'avec l'appui constant d'une puissance étrangère. Car, écrit-il à Jacques dans sa lettre de vœux pour 1732, prochaine diapositive... Il est quasiment impossible qu'un roi catholique d'un peuple protestant règne longtemps en toute tranquillité, ou seulement, ou juste en sécurité, sans soutien étranger. Et la France est la seule qui, de ce fait de sa proximité géographique et de nombreuses autres raisons, peut lui apporter un tel soutien. Et pour, j'allais dire, la scotticisante que je suis, le début où il parle des Anglais, parce que les gens, le peuple dont il parle, c'est un, donc le peuple anglais qui sont turbulents, séditieux, dit-il, ça pourrait ébranler la personne la plus courageuse du monde de vouloir régner sur un tel peuple. Donc les questions politiques occupent une place de premier plan dans la correspondance de Jacques avec Louis Inès. Mais ses lettres laissent aussi transparaître l'estime, parfois même une certaine tendresse qu'il ressent à l'égard de son ancien aumônier. Alors je n'ai pas le temps de développer ces exemples-là, mais cela n'a rien de surprenant si l'on se souvient que Louis Inès a en quelque sorte accompagné les premières années de Jacques à Saint-Germain-en-Laye. Quand il vit à Saint-Germain-en-Laye, Jacques III est enfant, en fait, donc du vivant de son père, puis comme tout jeune monarque. Alors qu'il vient d'être nommé secrétaire d'État de Jacques, le comte d'Inverness, ou Lord Inverness, implore Inès de ne pas lui refuser son aide et ses conseils. Prochaine diapositive. Car c'est de lui que Sa Majesté a appris le tact et la finesse dont il fait preuve dans toutes ses démarches. Et il va jusqu'à dire que lorsqu'il reçoit des instructions du roi, ce qu'il voit transparaître dans ces instructions, c'est ce que Inès a appris au roi, la façon dont c'est fait. Donc il voit la trace, la marque d'Inès, même dans les instructions que lui donne le roi. Malgré, ou peut-être en raison d'eux, sa disgrâce éphémère, Louis Inès jouit de la confiance pleine et entière de Jacques. J'avoue que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents, pour moi, c'est encore assez confus la raison pour laquelle Jacques, de manière aussi catégorique, va du jour au lendemain évincer Inès, et de la même manière, du jour au lendemain, reprendre une correspondance très intime. Peut-être qu'un historien un jour retrouvera, moi je n'ai pas trouvé. Mais donc il y a cette proximité. Et Jacques, c'est auprès d'Inès que Jacques cherche quelques réconforts pendant la période où il est séparé de son épouse, la reine Clémentina. Alors il y a un aspect très politique à cette séparation. Elle s'oppose, disons, au fait que Jacques ait entouré son fils de protestants. Elle vit ça très mal. Elle a l'impression que Jacques prépare doucement une transition vers le protestantisme. Elle n'aime pas les personnes qui sont en charge, disons, de la politique à la cour jacobite. Et elle est soutenue par le pape. Et donc, la séparation, elle part dans un couvent, ça doit durer quelques temps, et en fait, ça va durer 2 ans. Et ça crée vraiment beaucoup de troubles au sein de la communauté jacobite. Et Inès lui donne à la fois des conseils politiques et du réconfort personnel sur cet homme qui est séparé de sa femme et d'enfants très jeunes. Mais c'est aussi vers lui qu'il se tourne lorsqu'il se met en quête d'un gouverneur pour le duc d'York, qui n'est alors âgé que de 2 ans. Henri a 2 ans et déjà Jacques songe à l'homme qui va instruire son fils, qui est le deuxième, non pas l'héritier, mais le deuxième. Mais c'est quand même à Inès qu'il demande de trouver cette personne-là, et il lui enjoint de garder le plus grand secret et confie qu'il s'en remet à lui plutôt qu'à n'importe qui d'autre, parce qu'il est persuadé qu'Inès n'a d'autre vue que le bien de sa famille. Prochaine diapositive. Voilà. Donc lorsque Louis meurt en février 1738, Jacques est profondément attristé. Et il note dans la lettre qu'il écrit à Thomas Inès qu'il perd un serviteur des plus fidèles, qui alliait compétence et zèle à son service, qualité que l'on ne trouve pas toujours réunie chez une même personne. La juste estime, et il continue, la juste estime et la bienveillance que Jacques avait pour M. Louis Inès l'inciteront toujours à vous accorder une attention particulière, car cela constituera une raison supplémentaire d'agir en faveur du Collège écossais de Paris et de lui apporter son soutien en toute occasion. Et par ailleurs, il assure Thomas Inès qu'il a toute confiance en lui et en son neveu Georges pour veiller sur les archives des Stuarts déposées au Collège. Donc il n'existe pas, et on peut le sentir quand même là, il n'existe pas entre Jacques et Thomas Inès la même intimité qu'avec son frère aîné. Toutefois, Jacques est tout à fait conscient qu'à divers titres, Thomas a également un rôle à jouer dans l'entreprise de restauration des Stuarts sur les trônes britanniques. Thomas lui-même y fait allusion dans une des lettres qui accompagne les inventaires des archives qu'il envoie à Jacques, rappelant à ce dernier que le Collège des Écossais, dont il a été le préfet des études, est depuis sa fondation entièrement dévoué à la famille royale. Cependant, bien plus qu'en tant que pédagogue, c'est en tant qu'historien que Thomas Innes a apporté la pierre la plus importante à l'édifice de relégitimation de la dynastie Stuart. Comme cela a été mentionné tout à l'heure, alors d'abord il a trouvé la fameuse charte, mais surtout Jacques a ordonné à Thomas de travailler à la rédaction d'une histoire de l'Écosse, des origines du christianisme à l'union des couronnes. Prochaine diapositive. De fait, l'ouvrage que Thomas Innes finit par publier en 1729, A Critical Essay on the Ancient Inhabitants of the Northern Parts of Britain or Scotland, s'arrête bien avant le XVIIe siècle. Mais il a un retentissement considérable au moment de sa publication. En effet, il remet en cause la généalogie des rois d'Écosse telle qu'elle est exposée par les historiens classiques de l'Écosse, à commencer par Boyce et Buchanan. Ce qui peut sembler a priori relativement anodin, a des répercussions profondes sur la façon d'envisager les règnes passés et futurs des Stuarts en Écosse. Évidemment, comme ça, si on vous dit, oui, Thomas Innes, il a dit que 43 qui étaient dans la ligne de succession en fait n'existaient pas, vous allez dire, bon, 43 de plus ou de moins dans un mythe des origines, ce n'est pas très très important, mais en fait, si. Parce que Buchanan, qui est le chantre de la réforme presbytérienne et de la destitution de Marie Stuart, défend le droit du peuple écossais à se soulever contre son souverain sur l'exemple de certains des rois dont Innes nie l'existence, réduisant à néant la théorie politique qui prévalait en Écosse et qui avait aussi permis de justifier la révolution glorieuse de 1688. Donc, sans ces rois, plus de justification de la destitution de Marie Stuart ni Jacques II. Donc, dans le Critical Essay, Innes applique la diplomatique mise en œuvre ou mise en avant par Mabillon, qu'il avait connu à Paris, étayant ses propos sur des sources incontestables qu'il a consultées au cours des 10 années précédentes. Il s'appuie donc sur l'histoire ancienne de l'Écosse, mais sur des documents, des sources primaires, pour contester les principes sur lesquels sont fondés non seulement l'Église presbytérienne d'Écosse, et il a écrit plus tard, ça a été publié de manière posthume, une autre attaque plus religieuse, donc c'est une histoire ecclésiastique de l'Écosse, là c'est vraiment plus des considérations de politique. Donc voilà, il a contesté les principes sur lesquels sont fondées donc, l'Église presbytérienne d'Écosse, mais aussi et surtout la Révolution glorieuse qui a privé Jacques II de ses trônes. Ce faisant, Innes fragilise l'édifice politique existant. Dylan Fowler, qui va bientôt soutenir sa thèse sur Thomas Innes, souligne à juste titre que la commande, qui est aussi un ordre, c'est à la fois une commande, hein, je passe commande de quelque chose, mais c'est aussi un ordre de Jacques pour la rédaction d'un tel ouvrage, survient au lendemain de l'échec cuisant de la rébellion de 1715. Et donc on peut penser que les milieux jacobites ressentent alors la nécessité d'apporter à leur cause une plus grande légitimité historique, et se mettent en quête d'un historien capable de s'atteler à l'écriture de la vraie histoire d'Écosse. Et lorsque l'essai est publié, Thomas Innes revient en détail sur son dessin dans une longue lettre adressée à Jacques. Il souligne notamment, prochaine diapositive, hein, donc, il souligne notamment l'effet délétère des écrits de Buchanan, qui sont généralement considérés par les étrangers comme la seule référence en matière d'histoire écossaise et de droit monarchique, ce qui de toute évidence explique dans une large mesure pourquoi les princes étrangers sont si peu sensibles à l'injustice criante faite à votre majesté. En d'autres termes, si ces princes étrangers connaissaient mieux l'histoire d'Écosse, en tout cas la connaissaient telle que je la décris, ils seraient scandalisés qu'on vous ait pris votre trône et donc ils vous apporteraient leur soutien. Par ailleurs, Innes lui rappelle les difficultés matérielles qu'il a dû surmonter pour avoir accès à ses sources, mais aussi les obstacles qu'il a dû contourner. Prochaine diapositive. En effet, ce n'est pas chose aisée à cette époque de publier à Londres un ouvrage qui s'attaque au fondement même des principes révolutionnaires en Écosse. C'est la raison pour laquelle j'ai dû le présenter comme un simple fait historique, l'intégrer mine de rien à une grande variété d'analyses critiques et l'introduire comme une partie nécessaire de mon propos sous prétexte d'étudier la véritable ère de la monarchie écossaise. Enfin, Innes souligne que plus encore que les autres sujets de Jacques, ceux qui ont la charge du collège des Écossais ont le devoir, prochaine diapositive, de défendre l'honneur et de soutenir les droits de la couronne, et qu'il n'est pas meilleur moyen de le faire que d'inculquer une loyauté inébranlable à la dynastie Stuart, à ceux que la Providence place sous notre garde. Peu de temps après la publication de l'essai, Thomas Innes et plus généralement le Collège des Écossais se retrouvent au cœur de la tourmente qui secoue la mission d'Écosse. Alors, là aussi, j'aurais pu faire une conférence là-dessus, et je vais juste en donner deux, trois phrases. Ce qui se passe, c'est qu'une partie des prêtres séculiers et les jésuites, dont le fameux neveu de Thomas Innes, Robert, non, ouais, c'est John, si, Robert, je les confonds toujours Robert et John, accusent les deux frères, Louis et Thomas Innes, d'instiller le poison du jansénisme dans la mission tout entière, par le biais des séminaristes qu'ils forment au collège. C'est-à-dire que les jeunes hommes qui viennent au collège des Écossais à Paris sont instruits par Thomas et plus tard par d'autres, mais qui sont, on va dire, infectés, et ils apprennent les principes ou la doctrine janséniste, et une fois ordonnés prêtres, vont officier dans la mission en Écosse, et donc empoisonnent tous les catholiques écossais avec ces fameuses doctrines jansénistes. Cette querelle intestine est d'une violence rare, et le temps donc manque pour développer ce point, mais il est à noter que tant le nonce Lercari en 1737 que le cardinal Fleury en 1741, à qui Propaganda Fidei a demandé d'établir ce qu'il en est des faits reprochés, parce qu'il y en a deux des prêtres écossais, vont eux-mêmes voyagent jusqu'à Rome pour porter ces accusations, pour être sûr que tout le monde sache ce qui se passe, ce qui d'après eux se passe en Écosse. Et donc, on demande au cardinal Fleury de dire ce qu'il en est. Donc, le cardinal Fleury précise que... prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc vous avez la citation plus longue en français. Donc, les messieurs Innes ont toujours trouvé... ils confirment qu'ils sont tous les deux jansénistes. Ils précisent que Louis Innes est mort, mais que ça ne change rien à l'affaire parce que Thomas Innes est toujours là et qu'il continue d'empoisonner toutes les personnes qui fréquentent le collège. Et ils précisent que les messieurs Innes ont toujours trouvé de la protection. Le roi Jacques les aime et les protège parce qu'ils ont toujours été très attachés à sa famille. C'est entre leurs mains qu'ont été remis les papiers les plus précieux et la couronne même et plusieurs autres effets royaux qui sont dans le trésor du collège. Monsieur de Ramsay, donc le chevalier Ramsay, et Monsieur O'Brien, le comte de Lismore, sont chargés de la part du roi Jacques de les protéger. Et on sent bien là qu'il y a une étape quasi infranchissable où on ne peut pas aller ou passer outre la protection de Jacques. Certes, le cardinal de Fleury n'est pas très heureux de la situation. Il corrobore les accusations, mais il semble dire bon, en fait, on peut pas y faire grand chose. Et d'ailleurs, bon, donc là, j'ai pas donné la suite, mais dans la suite de son mémoire, ce qu'il dit, c'est la seule façon de purger la situation, c'est de se débarrasser de tous les Innes dans ce collège. Donc à la fois Thomas et Georges. Donc cet attachement au Stuart, prochaine diapositive s'il vous plaît. Voilà, cet attachement au Stuart des Innes est en quelque sorte inscrit dans les murs du collège. Honorant la promesse qu'il a faite à Louis Innes, Jacques offre au collège successivement, donc c'est dans les années 20 et dans les années 1720 et 1730, les portraits de la reine Clémentina, donc ça on pense que c'est ce portrait. Alors celui-là, ce portrait-là doit vous être plus familier parce qu'il est encore, c'est le seul, je crois, qui est encore dans les murs. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, aussi donc les portraits de Charles et d'Henri qui viennent donc rejoindre son propre portrait qu'on a vu tout à l'heure. Plus imposant encore, évidemment, prochaine diapositive, voilà, ce sera la dernière. Plus imposant encore, évidemment, est le monument à Jacques II de la chapelle, qui a été érigé par le duc de Perth. Et cette chapelle, donc, abrite également le monument funéraire de Louis Innes. Enfin, c'est donc que vous avez à droite, et donc avec son cœur. Alors, Thomas Innes n'est pas honoré dans la chapelle. On pense qu'il a été inhumé à Saint-Étienne-des-Monts, Mais comme le cimetière n'existe plus, on ne peut pas vérifier. Mais Thomas Inès donc meurt en 1744 sans connaître ni la rébellion de 1745, ni l'anéantissement des espoirs jacobites. Et en guise de conclusion, je dirais que c'est vraiment une période qui se clôt avec la mort de Thomas Inès, parce que c'est la... bien que Georges Inès soit principal jusqu'en 1752, il meurt en 1752, c'est vraiment la fin du rayonnement du Collège des Écossais de Paris, qui rayonnait à la fois politiquement et intellectuellement grâce aux frères Inès. Alors évidemment, comme je vous l'ai montré, la famille Inès, il y a eu des représentants jusqu'à la Révolution française, mais il n'y a plus du tout le même rayonnement. Et la querelle janséniste a causé énormément de tort au Collège des Écossais à Paris, parce que propagande affidée, n'étant pas du tout rassurée sur ce qui se passe à Paris, va faire en sorte qu'il n'y ait, pour ainsi dire, plus aucun séminariste envoyé à Paris. Ils vont tous être éduqués au Collège des Écossais de Rome, puis plus tard en Espagne, vraiment ça a porté un coup d'arrêt au rayonnement du Collège des Écossais. Et on le sait maintenant aussi avec le recul, c'est, on peut dire, la fin du jacobitisme réaliste, j'allais dire. Jacques lui-même, après l'échec de la rébellion de 45, n'escompte plus du tout être rétabli, ni son fils sur le trône. Donc là, c'est une période qui se clôt, à la fois pour le collège et pour le jacobitisme. Voilà, je vous remercie.
Merci Clotilde, je vais arrêter l'enregistrement.